le studio Kalangou, il vient d'être 17h. Tout de suite, le journal en français avec Rafika Taher. À présent, les titres ce 30 septembre 2022. Situation confuse au Burkina Faso. Depuis ce matin, des armes crépitent à Ouagadougou. De quoi s'agit-il? Le rédacteur en chef du studio Yafa pour des éclairages dans un instant. Réorganisation de la filière du riz au Niger. Le pays ambitionne d'arrêter l'importation du riz d'ici 2030. Plus de détails dans ce journal. Dans la partie magazine de ce soir, avec un socio-anthropologue, nous verrons les obstacles rencontrés par certaines couches sociales dans le contrôle citoyen. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Depuis tôt ce matin à Ouagadougou, les habitants de la capitale ont entendu des coups de feu. À la mi-journée, les armes continuent encore de crépiter dans certains quartiers de la capitale du Burkina Faso. Selon le rédacteur en chef du studio Yafa de la Fondation Hirondelle, la situation reste confuse. Personne ne peut dire s'il s'agit, oui ou non, d'un coup d'État ou d'un mouvement d'humeur. Yacinthe Sanou, rédacteur en chef du studio Yafa, interrogé par Alassane Abdou.
Dans le camp Babati, qui est situé à quelques encablures de la présidence du Faso, on a entendu des tirs ce matin autour de 4h du matin, ce qui a jeté en tout cas la frayeur de la ville, puisque c'est de ce camp qu'est parti le coup d'État de janvier dernier. Après donc ces tirs entendus tôt le matin, il y a eu certains axes qui ont été fermés à la circulation, notamment l'axe menant à la présidence du Faso, mais également l'axe menant à la télévision nationale, la RTP, qui a connu entre 6h et 9h de ce matin, donc une coupure de signal, ce qui a jeté un peu aux différentes rumeurs qui pouvaient circuler. Alors, il y a des tirs qui sont signalés de temps en temps dans certaines zones de la capitale, notamment au camp Babassi, mais également au niveau de la présidence du Faso. Mais difficile de dire quelle est la motivation de ces tirs et quels sont les tirs de ces tirs là. Un communiqué de la présidence du Faso nous dit qu'il s'agissait d'un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales.
La campagne électorale pour la présidentielle au Nigeria de février de l'année prochaine a débuté ce matin à Ilela, ville nigériane frontalière avec Birnin Konni. La population de Konni exprime le souhait d'une campagne électorale apaisée et un bon déroulement du scrutin. On les écoute au micro d'Assoumane Moussa Arzika.
La question des élections, c'est un cercle vicieux à problème, car souvent, c'est le début que l'on voit. Mais à la fin, personne ne sait comment cela va se terminer. Seulement, nous prions pour que Dieu, de la façon dont ça s'est bien débuté, que ça se termine dans de bonnes conditions. Le Niger et le Nigeria, c'est la même famille. Nous sommes unis par des liens historiques.
Tout ce qu'on souhaite de ces élections au Nigeria est qu'elles se déroulent bien et que Dieu accompagne le vainqueur sorti de ces élections dans la gestion de son pays et de son peuple dans l'équité et la justice.
À Maradi, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite des migrants a organisé la 8e édition de sa journée nationale cette semaine. Le thème retenu cette année est l'exploitation de la mendicité des femmes et des enfants dans un contexte de migration, défis et perspectives. Pour le directeur régional de l'agence, le choix de Maradi découle du fait que le phénomène de mendicité y est plus prononcé. Ousmane Maman est au micro de Mohamed Maman.
Cette année, nous avons porté notre choix sur Maradi pour une raison. Lors du rapatriement des mendiants d'Accra, le gros lot est originaire de Maradi, constitué des femmes et des enfants. Comme la question de la mendicité est devenue récurrente et que Maradi porte le gros lot contrairement aux années précédentes, nous avons porté notre choix sur Maradi pour sensibiliser les populations sur les risques liés à l'exploitation de la mendicité des femmes et des enfants, surtout à l'extérieur. L'exploitation de la mendicité est une forme de traite et ça concerne les femmes et les enfants. Et c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur chaque jour. Et l'image du Niger est en train d'être vraiment écorchée parce que des personnes ont voulu avoir du gain facile en transportant des enfants au-delà de nos frontières et les soumettre à la mendicité. Rapatrier des fonds provenant de cette mendicité aux parents de ces enfants et une partie utilisée par ces trafiquants. Et en ce qui concerne les femmes qui transportent les enfants au-delà des frontières, là, la seule solution, c'est vraiment la répression.
Comme annoncé dans les titres, le Niger ambitionne d'arrêter l'importation du riz à l'horizon 2030. L'annonce a été faite lors du lancement de la stratégie nationale de développement de la riziculture la semaine dernière. Cette stratégie a pour objectif de contribuer à moyen terme à une augmentation durable de la production nationale du riz en quantité et en qualité. Bachir Issoufou, le secrétaire général adjoint de la Fédération des unions et coopératives des producteurs du riz, explique au téléphone de Mokhtar Hamadou.
Le secteur a besoin d'être réorganisé. Les sites hors aménagement, il faut les quantifier et il faut vraiment les soutenir en mettant à leur disposition des intrants, aussi vraiment à moderniser le post-récolte. Si vous lisez très bien les documents, on doit arrêter l'importation avant 2030. C'est possible, on a plusieurs sources d'eau. Par exemple, il y a le fleuve Niger. On peut faire des forages, on peut faire des retenues d'eau. Aussi, on a des superficies riziques cultivables qui ne sont pas aménagées. Donc, je pense que l'objectif, elle est atteignable. Et maintenant, l'autre option, ce n'est pas seulement l'État. Il faut que tous les Nigériens s'engagent. Il y a des gens qui peuvent investir. Ils peuvent créer des aménagements, leur propre aménagement, mettre en place des systèmes de transformation et de commercialisation. Je pense que les gens ne doivent pas seulement se baser sur l'État. Chacun parmi nous, nous tous Nigériens, on doit faire des efforts pour être autosuffisant.
La troisième semaine de septembre a été marquée par une baisse de la plupart du prix des produits céréaliers au Niger, selon le bulletin hebdomadaire du système d'information sur les marchés agricoles, CIMA. Mais pour les produits horticoles, une hausse s'observe. Fanta Chamsou pour le résumé.
Au cours de la semaine du 14 au 20 septembre, les marchés céréaliers ont connu une baisse relative au prix moyen de certains produits. Il s'agit notamment d'une baisse de 1% sur les prix moyens nationaux du sorgho et du maïs et de 3% sur ceux du mil. Quant au prix du riz importé, il reste inchangé par rapport à la semaine précédente. Selon le bulletin hebdomadaire du CIMA, système d'information sur les marchés agricoles, cette situation s'explique d'une part par les ventes à prix modérés et la distribution gratuite des vivres aux foyers vulnérables par l'État et de l'autre par le bon augure de la campagne agricole. Comparé à la même période de l'année passée 2021, l'on note une baisse de 8% sur les prix du maïs et de 1% sur les prix du sorgho. Pour ce qui est des légumes, l'on observe une baisse sur les prix de la majorité des produits.
Cette année, la saison des pluies est aussi porteuse de maladies pour les jardiniers du département de Tchirozérine. Malgré l'intervention des services de l'agriculture pour combattre ces maladies, certains producteurs semblent désabusés et impuissants à continuer de cultiver, selon Tahir Seydou, directeur de l'agriculture, au micro d'Ahmed Félan.
Les maladies là, principalement c'est la fusariose, plus les trips, accompagnées des attaques de sotorio aussi. C'est franchement cette année, on a beaucoup de déclarations. Nous sommes quand même à peu d'œuvre, on suit ça de près avec les traitements. Pour certains ça réussit, mais ailleurs ça ne réussit pas parce que fusariose c'est une maladie. Les dispositions doivent être prises bien avant. Donc ça attaque les semences et puis ça se répercute la culture même en tant que telle une fois mise en place. Nous sommes là quand même en train de suivre ça de près, mais ça fait beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup de ravages, c'est malheureux. Vraiment, il y en a même qui abandonnent leur site au pire des cas. Nous sommes à peu d'œuvre, mais on est aussi en train de sensibiliser la population. C'est les mesures préventives qui sont de traiter les semences d'abord, parce que le problème c'est que nos producteurs utilisent des semences tout venant. Souvent ils prêtent ça ou ils amènent ça d'ailleurs, ils ne savent pas l'authenticité de ces semences là. Donc il va falloir prendre des dispositions de les traiter avant de les semer.
Suite aux importantes précipitations enregistrées cette année à Douchi, deux sites maraîchers de plus de 6 hectares appelés Tabkinsaou 1 et Tabkinsaou 2 ont été inondés. Ces sites maraîchers appartiennent à deux groupements coopératifs qui se retrouvent sur le carreau. El Hadj Hamza Faria, président des maraîchers, au micro d'Abdelaziz Dayouma.
Par rapport à ces inondations, de notre côté, nous avons 8 hectares. 3 hectares et demi sont engloutis par les eaux. Du côté de la première mare là-bas, il y a 6,5 hectares, 3 hectares complètement submergés. Ce n'est pas seulement ces sites que les eaux ont envahis. Même les cultures de contre-saison ne sont pas épargnées. Sur ces endroits, les cultures se font toute l'année, même pendant la saison des pluies. Et là, tous ceux qui sont aux abords de la mare ont vu leur production inondée par les eaux. Les parcelles où ils ont semé du piment, de la tomate, de la salade et du maïs. Tous les conseillers d'ailleurs sont venus voir de visu l'état des lieux. Il y a un grand nombre aussi de producteurs qui ne font que ces cultures de contre-saison. Et voilà que la production qu'ils ont faites sur ces sites de contre-saison complètement inondés. Ça, c'est vraiment un recul.
Les préparatifs pour la rentrée scolaire du lundi 3 octobre se déroulent normalement à Gaya selon les responsables de l'éducation. Le matériel est réceptionné et acheminé dans toutes les communes. La liste des élèves passant comme redoublants et aussi celle des enseignants déployés sont enfin prêtes à confier Abdoumama Kabir, directeur départemental de l'éducation, par intérim de Gaya à Fadalalou.
Ça fait 3-4 jours qu'on a reçu le matériel de la région, donc de la direction régionale. Nous avons reçu 863 cartons, que ce soit cahier, bic, crayon, matériel géométrique, craie. Nous sommes déjà en train de les répartir dans les inspections. Et les instructions sont que à partir du 1er octobre, que tout le matériel soit dans les écoles même, même pas dans les inspections. Pour que le 3 octobre, Inch'Allah, le jour de la rentrée, on procède à la remise de ces fournitures-là aux élèves. Donc par rapport à ça, vraiment, nous sommes en train d'avancer bien. Nous avons déjà reçu les 3 documents qui nous permettent de faire les classes. Les 3 documents, c'est quoi? C'est le PRE, le passage à redoublement exclusion, c'est l'orientation post-BPC et la liste de CETROS, donc entrée en 6e.
Bienvenue dans la partie magazine. L'exercice du contrôle citoyen de l'action publique n'est pas facile pour certaines couches de la société. Il s'agit par exemple des analphabètes ou des femmes. De ce fait, ces composantes sont exclues de la gestion de la commune où leurs préoccupations ne sont pas toujours prises en compte. Cette situation est une réalité dans certaines parties du Niger selon le socio-anthropologue Dr Abdulwaham Soumana. Il explique au micro de Mustapha Mamansani.
Au Niger, ex-colonisé de la France, quand on parle de l'analphabète, on parle de celui qui ne sait ni lire ni écrire en français. Dans ce cas, il y a beaucoup plus d'analphabètes que d'alphabétisés. Puisqu'on parle de contrôle citoyen, la question du budget, la question des grands documents, les politiques nationales ou des politiques, si vous voulez, sectorielles, rares sont traduits et même ceux qui sont traduits sont très peu vulgarisés. Donc ça, c'est un réel obstacle dans le contexte nigérien, même s'il a des points de vue. Très souvent, il a des difficultés à les donner et ça, on parle depuis les petites municipalités jusqu'à l'Assemblée nationale, le problème est le même. C'est vrai, des fois les débats se tiennent en langue, mais ce n'est pas tous les documents qui sont traduits, lus, écrits en langue. Deuxième chose, même s'il a accès, il n'est là que des fois après les médias audiovisuels qui traduisent beaucoup plus en langue. Dans nos pays, c'est sans embâche. Celui qui n'a pas été à l'école a des difficultés pour exercer son contrôle citoyen.
Pourquoi la gente féminine est faiblement prise en compte dans le cadre du contrôle citoyen?
Je ne sais pas, peut-être il faut revoir, est-ce que c'est une question de prise en compte ou bien elle est faiblement présente elle-même? Parce que quand on dit prise en compte, là c'est comme si nous sommes dans le passif, c'est comme si on accepte de les mettre ou de ne pas les mettre. Au Niger, nous sommes dans une société fortement islamisée où les valeurs musulmanes sont appliquées en théorie et en pratique par tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas des érudits ou des ulémas. Elle a un choix à opérer devant certains maris, devant certains pères. On le sait très bien avec des historiens qui se sont intéressés à la question, comme le professeur Jibahman ou le professeur Mekorema, que les valeurs nigériennes se sont longtemps confondus aux traditions arabo-musulmanes. Donc, à telle enseigne que la majorité des recommandations, des lois, des règlements au Niger, et je parle de ceux qui ne relèvent pas de l'officiel, relèvent plus de l'islam ou ont une coloration musulmane ou en tout cas sont faites sous couverture musulmane. Donc, lorsque le mari dit à sa femme, mais non, écoute, moi je ne veux pas te voir à cet endroit, elle est obligée de se rétracter. Ou bien elle a des problèmes dans son foyer. C'est aussi vrai pour la femme non mariée qui est chez son père. Mais j'ai discuté avec des femmes intellectuelles de grand niveau, mais dont le mari a interdit l'accès au micro. Donc il y a ces pesanteurs et d'autres aussi qui sont propres à sa nature. Hein. Elle peut avoir des situations où elle est peut-être enceinte, elle a des difficultés pour participer à certaines manifestations, à certains trucs. La solution n'est pas automatique.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Place à Alamine Ouachar pour la présentation du journal en tamashek. À 18h15, vous écouterez le forum de la presse avec Mokhtar Hamadou et ses invités.